Radio Kapi. Oh, Kapi. À la une de l'actualité, la nouvelle dynamique de la société civile indicie Bukavu dénonce plusieurs cas d'insécurité dans la ville et dans certains coins des territoires. Cette semaine en cours, cette dénonciation est contenue dans une correspondance parvenue ce 14 mai à Radio Kapi. Le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen vient de lancer une campagne de suivi et d'évaluation des actions gouvernementales. C'est ce qu'a annoncé ce samedi à Kinshasa lors d'un point de presse Joseph Kinzo. Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, est notre invitée. Elle fait le bilan de sa mission de 5 jours à l'est du pays. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord cette information, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, s'entretient avec son homologue de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Ce dernier est arrivé à Kinshasa en début d'après-midi. Ce tête-à-tête apprend-on table sur les relations bilatérales entre les deux États. Nous y reviendrons avec assez de détails dans nos prochaines éditions d'information. Je le disais en titre au Sud Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile, Indici, dénonce plusieurs cas d'insécurité dans la ville de Bukavu et dans certains coin des territoires cette semaine en cours. Cette dénonciation est contenue dans une correspondance parvenue ce 14 mai à Radio Kapi. Cette structure citoyenne monte au créneau et en appelle aux autorités pour sécuriser la population et leurs biens. La NDC demande également aux services de sécurité du Sud Kivu d'étudier un nouveau plan de sécurisation de la province. Rachel Kiesembango pour les détails.
La NDC Sud Kivu renseigne que dans la nuit du mercredi au jeudi dernier, des voleurs en armes ont pillé plusieurs biens de valeur, ordinateurs, téléphones et mallettes, à l'Institut Mouzi Roi Bouriba, une école conventionnée catholique située dans le quartier Chikoni, dans la commune de Bagira. De même, un changeur de monnaie a été attaqué par deux bandits lorsqu'il voulait se rendre à son domicile à la botte, à quelques mètres de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, dans la commune d'Ibanda. Ces bandits ont blessé cet échangeur à coups de couteau après lui avoir ravi une importante somme d'argent. Dans le territoire de Walungu, des bandits en armes ont attaqué et pillé la paroisse martyr Baganda de Chierano. À Uvira, un officier militaire tire à bout portant sur un défenseur judiciaire à Mulongwe. À Kabare, un cas de justice populaire a été enregistré à Chirunga au cours de cette semaine, pour ne citer que cela. La NDC demande donc aux autorités de sécuriser les habitants et aux services de sécurité de la province d'étudier un nouveau plan de sécurisation de la population dans la ville de Bukavu comme dans le 8 territoires de la province du Sud Kivu. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, l'armée annonce ce samedi avoir neutralisé un bandit armé qui faisait partie du réseau des criminels qui insécurisent les civils dans la chefferie de Bachou. Ce dernier a été tué dans la localité de Kassitou, en groupement Malio à l'est de Boutembo. Le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui le rapporte à Radio Okapi, appelle la population de la région à dénoncer les malfrats et à collaborer avec l'armée pendant cette période d'état de siège afin de mettre fin à l'insécurité. Il a été joint par Grace Amzati.
Nous avons mis en place notre dispositif composé de nos services de renseignement pour filer le monsieur qui a beaucoup dérangé la population locale, qui a beaucoup tué. Et hier, nous avons maîtrisé les gars. Il était armé, il voulait ouvrir le feu sur les agents de l'ordre. Malheureusement, il a eu la balle, il a succombé quelques minutes après à l'hémorragie.
Ces derniers temps, il y a une insécurité grandissante dans la chefferie de Bachou. Pas plus tard que le mardi dernier, les bandits ont tué un militaire et blessé un autre. Quelles dispositions que l'armée a prises par rapport à cette situation ?
Exactement, c'est un problème de ce côté-là, mais nous avons pris des dispositions. Celui qu'on a battu hier fait partie de grands bandits qui ont ôté la vie à plusieurs personnes. Mais rassurez-vous que l'armée, pendant cette période, mettra tout en place pour que chaque village, chaque secteur vive en paix. Fini la période des hommes forts, nous sommes maintenant dans une période où nous devons maintenant rendre nos institutions fortes.
Le Conseil national de la société civile pour le suivi et l'accompagnement citoyen vient de lancer une campagne de suivi et d'évaluation des actions gouvernementales. C'est ce qu'a déclaré ce samedi à Kinshasa lors d'un point de presse Joseph Kinzo, président de cette structure emblématique de la société civile, quelques jours après sa sortie officielle et le lancement de ses activités. Il est question, dit-il, d'une action qui consacre la participation et l'accompagnement citoyen à un suivi de proximité pour amener le gouvernement à répondre aux desiderata des Congolais dans tous les secteurs de la vie. Les propos de Joseph Kinzo ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les demandes que nous avons formulées, c'est de pouvoir rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République en pacifiant l'Est et en stabilisant les autres zones qui connaissent des conflits ou des déstabilisations politiques et sociales. Relever le niveau de vie de la population par une action sociale de grande envergure au niveau du pays en termes de paiement décent des travailleurs de l'État et d'autres employés à tous les niveaux, en termes d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau du pays. Nous estimons que les citoyens congolais ont droit de bénéficier de leurs ressources et surtout d'améliorer leurs conditions de vie au travers d'une action entrepreneuriale mais soutenue par l'État. Nous avons estimé que la santé et l'éducation, ce sont des priorités des priorités. Nous encourageons la gratuité de l'enseignement des bases, mais nous estimons qu'il y a lieu de faire mieux et aller de l'avant, surtout concrétiser cette gratuité en la rendant plus opérationnelle sur toute l'étendue de la République.
Direction Boujimaï au Kassai Oriental, arrivé ce vendredi dans cette ville du ministre national des hydrocarbures, Didier Boudimbou, qui conduit une délégation composée du directeur général du Service national des hydrocarbures et du représentant de CEP, dit venir faire état des lieux des hydrocarbures dans les provinces du Kassai Oriental et Central, actuellement confrontées au problème d'approvisionnement de ces produits. Aussitôt arrivé, le ministre s'est rendu au gouvernorat de province où il a expliqué à l'autorité provinciale l'objet de sa mission. Didier Boudimbou, ministre des hydrocarbures, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Je suis en train de faire les états de lieux par rapport aux hydrocarbures. Dans ce cadre-là, on a remarqué que les deux Kassai sont mal approvisionnés et que le coût du carburant est énorme. Donc on est venu pour essayer de voir dans quelle mesure régler ce problème. Entre-temps, je ne suis pas seul. Dans ma délégation, il y a les DG de la Sunaïdro, il y a le reporter de CEP, le COVID et tout plein d'autres entités qui ont l'habitude de fournir dans les deux grands Kassai, dans le grand Kassai en général. Et là, nous sommes venus pour voir quels sont les problèmes pour pouvoir y remédier et régler ça. On va voir là où on pose. Parce que déjà, on sait que par rapport à l'approvisionnement, par rapport au chemin de fer, parce que ça doit venir de Idebo, nous allons voir c'est quoi qui se passe. Nous savons aussi qu'il y a des stations ici, mais qui ne sont pas approvisionnées. Nous devons essayer de voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ça peut. Et trouver des solutions, essayer de déployer ça. Et le reste, on va essayer de prendre le dossier.
Restons en Boujimaï pour vous dire que le service national sera bientôt opérationnel au Kassai Oriental. L'annonce a été faite par une délégation de ce service qui a bouclé sa mission cette semaine en Boujimaï. Conduite par l'ingénieur Matumbu, directeur de cabinet adjoint du commandant du service national, cette délégation a annoncé à l'autorité provinciale son déploiement au Kassai Oriental en vue d'y produire le maïs. Gustave Kakalangoy, directeur chargé de formation au sein du service national, en même temps conseiller juridique et administrative, explique au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
La bonne nouvelle, c'est que le service national est intéressé à se déployer dans la province du Kassai oriental, produit avec la province pour et avec la province du Kassai oriental, produire du maïs. Nous sommes en visite de prospection, une visite de reconnaissance. Avec l'autorité, nous avons conféré sur la nécessité de trouver des sites où nous pouvons produire, des sites fertiles, accessibles. Nous avons d'abord eu un accord de principe de l'autorité qui va conférer avec les responsables des différents services intéressés et nous serons informés. Dès que nous avons les sites, nous pensons commencer les travaux pour la saison A, c'est-à-dire d'ici septembre. Donc la condition d'abord, c'est d'avoir ces sites. Nous voulons produire dans le Kassai oriental pour nourrir d'abord le Kassai oriental.
À Nitouri, 3 personnes, toutes membres d'une famille, sont mortes foudroyées et 4 autres blessées au village Umulo de Njengu dans la chefferie de Agnals, en territoire de Mahagi. La société civile locale qui confirme cette information sollicite la prise en charge des blessés qui sont admis dans une structure sanitaire de la place. Charlie Omba pour les détails.
Le drame s'est produit vendredi sous une forte pluie accompagnée des vents violents alors que le victime se rendait dans leur champ, rapporte le coordonnateur de la société civile des Mahagi. Innocent Wabekoudou explique que ces trois personnes, toutes d'une même famille, avaient trouvé refuge dans une maison voisine. C'est là qu'elles ont été frappées par la foudre et elles sont mortes sur place. Quatre autres personnes qui étaient sous un arbre pour se protéger contre la pluie ont été grièvement blessées par cette catastrophe naturelle. Elles ont été acheminées dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. Cependant, le chef de la chefferie des Angales, Serge Dialaor, dit avoir entamé des séances de sensibilisation pour expliquer à la population de son entité comment prendre des précautions pendant cette période pluvieuse. Bounia, Charlie Omba, Radio Okapi.
La province de l'Ituri enregistre plus de 200 cas de décès maternels dans 12 zones de santé du territoire de Djougou depuis un an. C'est le docteur Savo Baimuka, médecin chef de zone de santé de Mangala, qui l'a dit ce samedi à Radio Okapi. Il précise que depuis le début de cette année, 99 cas sont répertoriés. Parmi les causes de cette mortalité maternelle, il cite notamment le manque de matériel adéquat pour une prise en charge correcte des malades après la destruction de certaines structures sanitaires par les groupes armés. Le docteur Savo Baimuka lance un appel aux humanitaires et au gouvernement pour venir en aide à ces structures sanitaires qui manquent de tout et pour sauver ainsi des vies et pour ainsi sauver des vies humaines. Il s'exprime au micro de Charlie Omba.
On a un problème sérieux des décès liés à ces problèmes. On a passé des matériels, surtout pour la maternité. Les enfants, on ne sait pas les prendre en charge correctement. Et avec les déplacés internes de la zone, on compte maintenant les décès maternels. Bien que certains décès maternels soient communautaires, ne soient pas notifiés, mais on a ces problèmes sérieux. Ça, ce sont des décès qui sont notifiés, ce sont des décès liés à l'hémorragie, à la prise en charge de la femme enceinte. On a passé des matériels pour la césarienne. Bon, en fait, on se débrouille avec les moyens de bord, mais les centres de santé, jusqu'à présent, certains n'ont même pas des tables d'accouchement parce que nous sommes parmi les zones oubliées, hein, des zones qui sont oubliées, des zones qui ne sont pas mises en urgence. Et nous faisons vraiment un appel pressant à la communauté internationale et particulièrement au gouvernement de nous venir en aide parce que cette population est délaissée.
Les lampions se sont éteints le vendredi à Kindu dans la province du Maniema où s'était né l'atelier provincial de plaidoyer, le lobbying et la revendication légale et non violente dans l'exploitation et la gestion durable des ressources minières. Organisé par l'ONG Mali, cet atelier s'est clôturé à la grande satisfaction des participants. Toutes les organisations de la société civile se sont dit préoccupées par le retour de la paix au sud de la province, dans le territoire de Kabambare. Le coordonnateur de la société civile Force Vive du Maniema, maître Stéphane Kamundala, compte sur l'engagement de ses pairs pour que le sud Maniema soit définitivement pacifié. Je vous propose de l'écouter.
Est-ce que nous pouvons espérer au niveau de la société civile Force Vive que nos populations vont savoir revendiquer leurs droits dans la paix et la quiétude? Est-ce que vous aurez la facilité de faire passer le message de la paix ou le mécanisme et stratégie de la paix dans l'exploitation minière dans l'ensemble de notre province en général et en particulier à Saramabila comme l'indique le titre de ce projet ou de cette activité? Au niveau de la société civile, nous comptons beaucoup sur vous et nous ne doutons pas de vos efforts et de vos engagements, de vos qualités, de vos compétences et nous allons voir réussir, si pas 80%, ces projets qui commencent son cours à dater de ces jours. La société civile Force Vive remercie également l'évêque nouvellement investi, nouvellement sacré, en l'occurrence Monseigneur François, qui aussitôt arrivé dans son diocèse, il a voulu commencer au moins son n'épiscopat par son assistance à la société civile à travers son implication dans l'obtention de ses financements.
Notez que le directeur exécutif de Maniema Liberté, Adalbert Chabani, a quant à lui parlé de plusieurs activités qui seront menées sur terrain dans l'objectif d'amener les communautés dans la logique de la culture, de la revendication légale et pacifique.
Actualité internationale.
La clémence l'emporte au sein de l'Union africaine vis-à-vis du Tchad. Pas de sanctions à ce stade contre la junte qui a pris le pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby, mais un accompagnement de la transition à N'Djamena. L'instance panafricaine réunie depuis vendredi 14 mai pour statuer sur le sort du pays sahélien devrait donner plus de précisions d'ici lundi 17 mai. À Antananarivo, le secrétaire d'État français chargé du tourisme, de la francophonie et des Français de l'étranger, Jean-Baptiste Lemon, était vendredi 14 mai à Madagascar. Le ministre y a inauguré le centre de vaccination de l'ambassade de France. Il est destiné aux ressortissants français et européens de plus de 55 ans vivant à Madagascar. Il s'agit de l'un des premiers centres pour les Français de l'étranger.
L'invité.
Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, a bouclé sa visite de 5 jours à Goma dans le Nord Kivu. Elle a rencontré une série d'acteurs politiques et de la société civile, notamment les autorités, le Barça communautaire, les femmes et certains jeunes. Pour Madame Keïta, sa mission à l'est du pays a atteint ses objectifs. Bintou Keïta fait le bilan de cette visite dans cet entretien qu'elle a eu avec Mathieu Ilunga Chambouy.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Les attentes de la population se sont focalisées beaucoup sur comment la MONUSCO peut s'impliquer dans le processus de deux communautaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers cet aspect?
Très clairement, depuis le 26 avril, nous avons un gouvernement. Nous avons un programme d'action du gouvernement. Dans le programme d'action du gouvernement, il y a cette composante très forte du DDRCS. Et en tout cas, nous, la MONUSCO, avec les autres agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, mais aussi les partenaires financiers, les institutions financières internationales et aussi les partenaires bi et multilatéraux. On est tous prêts à donner un coup de main pour que ce DDRCS soit mis en œuvre parce que concomitamment avec l'utilisation de la force, l'approche militaire d'aller contre les groupes armés, de les réduire, il faut concomitamment le DDRCS et il faut aussi que l'on termine les processus DDR qui avaient commencé avant. Maintenant, ça devient une urgence, d'autant que nous avons aussi l'état de siège qui a pour intention de pouvoir très vite donner un coup de poing, faire en sorte que les populations voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et moi, j'ai été assez étonnée parce que dans certains milieux, l'état de siège soulève beaucoup de préoccupations, notamment par rapport aux droits de l'homme. Mais d'une certaine manière, lorsque je suis arrivée ici, j'ai compris que la population est plutôt favorable et en attente de quelque chose de différent et de durable.
Vous avez rencontré les autorités, vous avez été avec Barza communautaire et hier, vous étiez même à Sac. Qu'est-ce qui est ressorti de votre visite?
Les différentes conversations avec le gouverneur, le vice-gouverneur, ensuite avec le Baraza et le groupe de jeunes Ouru et les femmes de tout cela, l'insécurité est le premier souci. L'insécurité est dans les discussions qui ont eu lieu. Il y avait toute la question de comment va se passer l'état de siège et comment la MONUSCO va accompagner l'armée et la police nationale congolaise dans le contexte de cet état de siège. Mais il y a eu aussi des éléments de rassurance que même avec une administration militaire, l'administration civile va continuer. Donc ça c'est important parce que pour nous, en tant que MONUSCO, nous avons du travail que nous faisons avec les forces de sécurité, mais nous avons du travail que nous faisons avec le secteur de la justice, avec les aspects dans les droits de l'homme. C'était l'occasion aussi de beaucoup échanger sur les politiques de conformité, de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Mais surtout, avec les Baraza, j'ai beaucoup apprécié. Ils ont une approche très méthodologique de la prévention des conflits, que je crois c'est important de les accompagner. Ils sont un peu comme les sages qui écoutent et ensuite reviennent. Ils retournent avec une force de paix positive, les influenceurs positifs, et pour faire avancer un dialogue permettant de trouver des solutions. J'ai écouté les recommandations des femmes par rapport à leurs besoins, des demandes très spécifiques, de dire les militaires que nous avons, ils sont restés trop longtemps dans la zone, qu'on puisse avoir une rotation, un changement, un renouvellement des générations. Et ce serait bien aussi qu'on ait un renouvellement de la chaîne de commande. Ce serait important d'avoir une vision et des actions pour faire en sorte que les militaires soient dans de bonnes conditions, qu'ils puissent avoir leur salaire. Et comme ça, on peut aussi les stabiliser en tant qu'être humain et aussi stabiliser leur famille, qu'ils puissent être dans des casernes. La police, il y avait des demandes par rapport à la violence sexuelle, la possibilité pour la police de pouvoir se déplacer. Les femmes ont demandé qu'on fasse du plaidoyer auprès du RAIS, auprès du ministre de la Défense, auprès du ministre de l'Intérieur, qu'il y ait un vrai travail en solidarité et en commun, parce que la sécurité, c'est leur besoin premier.
Lorsque vous bouclez votre visite à Goma, qu'est-ce qu'on peut attendre?
Très clairement, l'objectif a été atteint dans le sens où les personnes que j'ai rencontrées, notamment les commandants de secteur de la force, les chefs de bureau de la MONUSCO, on a eu des conversations très approfondies, discuté de comment on va répondre à l'attente de la population. Je crois les semaines prochaines, les mois prochains, on devrait avoir des changements.
Madame Bintou-Kayita, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.